minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Un ordinateur qui tombe en panne, la machine à laver qui fuit, des punaises de lit qui apparaissent sur le matelas, la grippe qui te cloue au lit, un pitbull qui t'attaque et plie la roue avant de ton vélo, tes lunettes retrouvées cassées, ton vélo adoré qui disparaît en bas de chez toi.
Tout ça en quelques jours, ça fait beaucoup, c'est même trop, et d'ailleurs pourquoi toi, qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? C'est pour ça que s'immisce en toi l'idée qu'il doit bien y avoir une raison, une explication de cet acharnement du sort contre toi. Alors, comment ça pourrait s'appeler cette accumulation de trucs chiants qui se passent la même semaine pour te la pourrir? Cette sorte de force surnaturelle qui te met à l'épreuve et qui aiguise tes nerfs, ta patience et ton courage.
C'est la loi des séries. Non, c'est pas un concept Netflix. C'est une théorie scientifique. C'est aussi appelé la loi de Murphy. Disons, les années 60, États-Unis, contexte de guerre froide, ingénieur aérospatial, un peu la tête dans les étoiles, mais sur une base militaire. Des expériences. Et un concept. Tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner.
Et franchement, c'est pas réjouissant que des gars qui manipulent des réacteurs nucléaires se disent que tout peut foirer. Allez, on essaye de partir d'un autre point.
La loi des séries. C'est la tartine beurrée qui tombe toujours du côté de la garniture. Pas de peau. Elle porte aussi le nom de loi du plus grand emmerdement. C'est vraiment relou cette histoire. Pourtant, ça a marché. Improbable. Cette loi est devenue un principe de précaution pour imaginer des actions en fonction de la pire conséquence imaginable. Il y a des gens importants qui sont mis à faire plein de probabilités, à produire des scénarios catastrophes, à imaginer le pire et donc à sécuriser tout pour toutes, tout le temps.
Mais est-ce que Murphy et sa loi fataliste et démoralisante vont nous aider à réparer nos lunettes, nos ordis, retrouver nos vélos et faire disparaître nos punaises de lit? Eh ben non. Cette loi nous rappelle que parfois, ça nous échappe. Et peut-être que c'est pas si pire.
Pierre Rabhi est mort le week-end dernier, et on n'y peut rien. Mais on est contente de savoir qu'il ne tiendra plus jamais de propos homophobes. Contente de ne plus entendre ces comparaisons foireuses entre la PMA pour les lesbiennes et les traitements avec pesticides pour l'agriculture. Cette loi, elle nous rappelle qu'on voit le verre à moitié vide, qu'on est souvent plus marqué par des événements négatifs que positifs, que devant une accumulation de trucs chiants, on évoque la loi des séries, alors que quand il y a des choses chouettes, on se dira pas « Tiens, la loi s'est pas appliquée ».
Et si on était des géants? Les tartines auraient sûrement le temps de faire un tour entier avant de s'écraser par terre. Il s'agit peut-être que d'une histoire de temps de retournement. Et si c'était des féministes qui avaient conçu les ordis, les téléphones, les machines à laver, peut-être que ces objets seraient plus robustes et s'abîmeraient moins vite. Et si on était plus riche, on aurait des objets de meilleure qualité. Et s'il n'y avait aucune fatalité dans cette loi? Et s'il n'y avait plus de capitalisme?
Il n'y aurait plus la fortune de 9 pourritures devenues milliardaires grâce aux profits tirés de la vente de vaccins contre le Covid-19. Il y aurait des vaccins libres, de licence et accessibles partout. Il n'y aurait plus de gens qui se noient chaque semaine dans les eaux européennes. Il n'y aurait plus de frontières. Il n'y aurait plus de personnes mortes écrasées sous des immeubles, écroulées au nom de la spéculation immobilière.
Alors non, la fatalité, c'est pas notre tasse de thé. Nos vélos et ordi, on les a réparés, les appartements complètement clinés et on va se reposer de nos grippes carabinées. On sait apprécier nos réussites et on se réjouit de foutre cette satanée loi de Murphy à la poubelle.
Loi de Murphy à la poubelle, mais on est quand même toujours plus marqué par les événements négatifs que positifs. Et en événement négatif de la semaine dernière, on avait parlé du naufrage de 27 personnes dans la Manche entre Calais et l'Angleterre. Et on voulait revenir sur les responsabilités, parce que la semaine dernière, on a fait des portraits des personnes qui venaient principalement du Kurdistan irakien et qui ont passé donc environ 2 heures à essayer d'appeler les secours, à commencer par appeler l'Angleterre, qui leur a dit non, vous êtes en eau territoriale française. Donc ils ont appelé la France, qui a dit non, c'est pas chez nous. Et comme ça, de fil en aiguille, 2 heures Des personnes ont fini par se noyer et échouer en France. Et à peine le naufrage annoncé, les autorités se sont renvoyées la balle des responsabilités. À force de politique de non-accueil en Europe, on est en train de glisser vers des sociétés fascistes. Et ça pue.
Et on va continuer ces infos avec une interview raccourcie du père de Souheil qui est mort par la police le 4 août dernier. Une interview longue qu'on a diffusée samedi dernier qui durait 40 minutes et qu'on a complètement raccourcie pour vous pour le format d'aujourd'hui. On s'écoute ça tout de suite. Bonjour Issamel Khalfaoui, vous êtes le père de Souheil qui est mort par balle par la police le 4 août dernier dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Alors peut-être qu'on peut commencer par retracer les faits.
Donc c'était le 4 août à peu près à 18h30. Il y a mon fils qui était passé à la Belle de Mai récupérer un copain. Il était garé sur un passage piéton et là il y a un véhicule de police qui s'est positionné juste à côté. Et du coup, il décide de faire le contrôle. Il y a des témoins, beaucoup de témoins, parce que c'était l'été, 18h30, il y a beaucoup de gens à la fenêtre, des gens dans la rue. Donc, il décrit la situation comme assez calme au début, tout au début en tout cas, ou en tout cas, Souheil, il s'est pas énervé, il reste calme. Et là, ils étaient trois, en fait. Un policier stagiaire, un adjoint de sécurité et un brigadier. L'adjoint de sécurité s'est posté entre les deux véhicules, à la portière au niveau de mon fils.
Le brigadier, qui était au volant, quoi.
Qui était au volant, okay. À l'arrêt. Le brigadier a fait le tour et s'est mis au niveau du passager. Et le policier stagiaire était derrière la voiture. Mon fils a encore assez calmement décidé de leur demander de l'indulgence. Et puis il a demandé à appeler sa mère. J'insiste sur le fait qu'il a demandé à appeler sa mère, c'est parce que du coup, ça, juste pour cerner, c'est un gamin de 19 ans, c'est pas un bandit. Mmh. C'est un jeune garçon qui demande à appeler ses parents. Donc ça devait être quand même le contexte pour la police. Donc il le refuse. Il y a à ce moment-là le policier stagiaire qui est derrière la voiture, après les témoins, qui prend le numéro de la plaque, et ensuite qui s'éloigne. Et là, une fois que la voie est libre, il y a mon fils qui fait une tentative de délai de fuite. Donc il fait une marche arrière, très légèrement d'après les témoins, il touche le genou du policier qui était resté entre les deux voitures, et celui-ci crie un « oh » assez fort. Et après ce haut, il y a le policier stagiaire qui arrive en courant et qui met une balle dans le cœur à mon fils. Tous les témoins expliquent qu'au moment du tir, le policier qui a été touché était déjà dégagé, qu'il n'était pas en danger. D'autre part, le policier qui arrive en courant et a tiré ne voyait pas la scène, alors qu'en face de mon fils, du côté passager, qui était donc à 2 mètres de mon fils, il y avait le brigadier qui lui n'a pas tiré. Il n'a pas sorti son arme. D'après tous les témoins, c'est parce qu'il a bien quand même estimé qu'il n'y avait pas de danger pour le policier qui a été touché. Donc, à la suite de ce tir, mon fils s'encastre en marche arrière dans l'immeuble à côté. Et là, les trois policiers décident, alors que mon fils a été touché, qu'il est blessé, de s'occuper du passager. Et donc, ils se démènent pour faire sortir le passager violemment et le menotter. Juste après le tir, les gens ont commencé à filmer. On a des vidéos où on voit mon fils qui essaie de reprendre de l'air et qui est agonisant. Et là, les policiers ne font rien. Ils le regardent. En fait, il y a même des voisins, des gens aux fenêtres, qui l'interpellent, mais portez-lui secours, aidez-le. Le policier qui a tiré répond, vous vous rendez pas compte, il a essayé d'écraser mon collègue. Donc, à ce moment-là, ils ne l'aident pas. Ils l'ont laissé mourir. Les secours ont mis du temps à arriver. Il y a une infirmière qui passait par là et qui a forcé le passage pour donner les premiers gestes de secours. Et il y a les pompiers qui sont arrivés. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas combien de temps après. Mais ils sont arrivés longtemps après, alors que la caserne Saint-Lazare, elle est juste à côté. Il y avait pas. S'ils avaient été prévenus normalement, ils auraient dû arriver dans les 5 minutes. Le policier qui était soi-disant touché, en fait, on le voit sur les vidéos, il s'est levé plusieurs fois, il a même participé à l'arrestation du jeune. Voilà, donc après, mon fils a été transporté à l'hôpital, mais en fait, j'ai su qu'en fait, il était mort en arrivant à l'hôpital. A priori, il y a eu 45 minutes de tentative de réanimation sur place par les pompiers. Quand moi j'arrive à l'hôpital Nord, j'ai Fouzia qui est à l'extérieur, effondrée. Elle m'a dit, bah, finalement, on m'a rappelé, il n'a pas eu un accident de voiture, c'est la police qui lui a tiré dessus. Et l'hôpital Nord nous dit, il n'est pas là. Et je lui dis, mais arrêtez de mentir, le SAMU m'a appelé, j'ai appelé SAMU, pardon, et ils m'ont dit qu'il était là. Et là, quand je dis que c'est le SAMU qui me l'a dit, elle me dit, attendez, elle revient 5 secondes après, elle me dit, il y a un médecin qui va venir vous voir. Donc il devait être 20h30 à peu près.
Là, vous étiez... Vous pensiez qu'il était vivant, qu'il
oui.
Vous savez,
ouais. Oui, moi j'avais pas d'infos. On me dit un tir de la police.
Oui, c'est pas forcément un tir mortel. Non,
pas, je pense pas un tir mortel. On attend, j'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je retourne les voir, on retourne les voir. Et toujours, oui, on va venir vous voir, on va venir vous voir. Et vers 21h30, en prenant mon téléphone, je vois dans la Provence un jeune homme mortellement blessé par un tir de la police. Donc en fait, j'ai appris que mon fils était mort en lisant le journal, alors que j'étais à l'hôpital où il était et où personne ne m'a donné aucune information. À ce moment-là, les policiers qui étaient à l'intérieur sont à l'extérieur maintenant. Et je leur demande, est-ce que c'est vrai? On ne peut rien vous dire. Je leur dis, c'est inhumain, en fait, de pas venir. On ne peut rien vous dire. En fait, il y a juste eu un moment à ce moment-là. Et je peux pas savoir qui c'est exactement parce que j'ai l'esprit un peu flou. Ouais. Mais c'était soit des vigiles, soit des ambulanciers qui étaient là et qui m'ont dit, oui, monsieur, votre fils est mort. Et là, en fait, on a vu un médecin quand j'ai commencé à taper sur le double vitrage parce que j'en pouvais plus. Donc là, on a vu un médecin et le major de la police est entré avec nous. Là, le médecin nous explique qu'il était mort en arrivant. Il est mort d'un arrêt cardio-respiratoire provoqué par un tir d'une balle dans le thorax. Et là, il y a mon ex-épouse, donc la mère de Souhel, qui demande au médecin, mais pourquoi ils ont tiré dessus? Pourquoi ils n'ont pas tiré dans les pneus? Donc finalement, c'est pas un médecin de dire, et qui peut pas dire, mais il y avait le major de la police qui était là, et qui dit, à ce moment-là, madame, monsieur, je suis là avec vous, là, pour vous soutenir. Alors que mon collègue, qui est passé sous les roues du véhicule de votre fils, est dans un autre hôpital et je ne connais pas son état. Donc ça, c'est la seule version que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui, la seule version qu'un policier ou que l'IGPN ou que le procureur aurait pu me donner, c'est le policier est passé sous les roues de la voiture de mon fils. En fait, moi, du coup, j'ai su qu'il y a eu des témoins le 6 août, lorsqu'il y a eu une marche blanche organisée par les habitants de la Belle de Mai. J'avais pas de version autre que les versions policières, moi, le 6 août. Et quand je me rends à cette marche blanche, je vois qu'il y a des tracts qui sont distribués. Et en fait, c'est la version de ce qui s'est passé, vue par les habitants et donc par les témoins qui étaient là.
Et là, vous apprenez. Et ben,
moi, j'apprends que mon fils a rien fait. J'ai une version qui correspond pas du tout à ce qui m'a été dit, à ce qui m'a dit le policier le premier jour. Il m'a dit que le policier est passé sous les roues de la voiture de mon fils. Donc là, je commence à m'inquiéter, mais je me dis, bon, il y a des témoins, il y a une enquête de l'IGPN, ils vont interroger les témoins, et puis on va avoir la vérité. Bah, j'ai été naïf pas très longtemps, en fait. Et là, pendant des semaines et des semaines, ils m'ont fait croire que c'était fini, puis ils m'ont dit que c'était fini, que ça allait être transmis au parquet, puis pendant un mois, c'est resté au placard, pas transmis. De l'autre côté, il y a le procureur qui dit « Mais moi, je ne peux pas statuer tant que je n'ai pas le rapport de l'IGPN. » Sauf que c'est lui qui pilote. Mm-hmm. Et que l'enquête est finie depuis un mois quand il me dit ça. Donc, au bout d'un moment, on se demande quelles sont les intentions. Il y a eu vraiment, entre le fait de donner des fausses versions, de ne pas mener une enquête comme elle aurait dû être, de faire tarder les résultats de l'enquête, même si c'est une enquête bâclée. Et aujourd'hui, on est presque en décembre. Et on n'a toujours pas les résultats de l'enquête préliminaire de l'IGPN. Pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, l'institution policière, le procureur, en fait, ils utilisent les mêmes mécanismes que les voyous ou que les avocats véreux, en faisant traîner les choses, en donnant des fausses versions. C'est quand même... je trouve que c'est quand même grave que ça soit accepté.
Et dans toutes ces nouvelles de violence, une lueur d'espoir. Mardi, Marseille était en grève. Aux côtés des éboueurs et deux autres secteurs qu'on voit moins souvent, les salariés du social et les salariés d'une petite coopérative, l'épicerie paysanne. Mardi matin, ce sont plusieurs centaines de professionnels du social et médico-social qui se sont rassemblés devant la préfecture pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et un secteur en souffrance. L'ambiance était festive et revendicative, les salariés venus souvent en équipe ont défilé au rythme de « si tu veux plus de salaire, tape dans tes mains » et du fric pour le social, pas pour le capital. Les manifestantes dénoncent les salaires bas d'un secteur qui a de plus en plus de mal à recruter. Des postes vacants aggravés par la mise à pied de nombreuses professionnels non remplacés. La file des dossiers en attente qui s'allonge, faute de moyens pour accompagner les personnes qui en font la demande. La perte de sens, la fatigue et la souffrance devant l'impossibilité d'exercer le métier. Des travailleuses sociales précarisées accompagnent au quotidien des personnes fragilisées par les crises successives et les politiques néolibérales. Le mouvement qui a commencé le 3 décembre rassemble de plus en plus de monde à Marseille comme ailleurs. Partout en France, ce sont 50 000 personnes qui se sont mobilisées mardi dernier dans un secteur où il est difficile de se mettre en grève pour ses propres conditions de travail, tant l'urgence sociale est permanente. Dans la manif, des bénéficiaires sont venus soutenir les salariés témoins de la dégradation de la situation. Les salariés du social parlent d'une grève historique et comptent bien continuer le mouvement. Parmi les revendications, les grévistes demandent un accompagnement de qualité avec un budget à la hauteur des besoins des personnes accompagnées et qui redonne du sens à leur travail, l'augmentation des places en foyer, d'hébergement, des recrutements, la revalorisation des salaires, 400 euros en plus pour tout le monde, la transparence totale sur toutes les négociations des conventions collectives, l'arrêt des financements à l'acte et aux contrats à impact sociaux et aux appels à projets. Des assemblées générales s'organisent et de nouvelles mobilisations devraient avoir lieu en janvier. À Marseille, la prochaine AG du Social Brûle aura lieu le mardi 14 décembre à 19h au local de Solidaire, 29 boulevard Longchamp, pour parler des perspectives de mobilisation. Dans un autre registre, un tournant managérial à l'épicerie paysanne. Les salariés de l'épicerie de la rue Léon Bourgeois ont tenu un piquet de grève devant le magasin mardi et mercredi après-midi. Et elle dénonce les conditions de travail éprouvantes, sous pression et une rupture de dialogue avec la gérance depuis le début de la crise du Covid. Alors que l'épicerie est une coopérative, les salariés dénoncent l'opacité des décisions, une précarisation des nouvelles arrivées par un recours massif aux CDD moins bien payés et témoignent du dénigrement dans le travail. Leurs revendications portent sur le respect des principes coopératifs par un accès immédiat au statut de la SCOP, l'élection d'une représentante des salariés, la transparence sur les salaires, les bénéfices et leur répartition. Une amélioration concrète des conditions de travail et le respect du droit du travail. Une amélioration significative des salaires et des contrats par la conversion des CDD en CDI, la reconnaissance de la pénibilité et l'uniformisation des salaires. Les salariés devraient se réunir ces jours-ci avec la gérance et envisager en fonction de continuer la mobilisation ou non. Cette grève a quelque chose d'inédit tant il peut être difficile pour les salariés de petites structures de s'organiser et faire valoir leurs droits. Ce n'en est pas moins symptomatique des enjeux de domination et des dérives patronales qui brassent les petites et moyennes structures, même sous le vernis associatif et coopératif. On salue donc toutes les camarades du social, de l'épicerie paysanne et de toutes les petites structures. Force et courage en vos luttes et qu'elles se répandent.
Les infos choisies, vendredi, midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Mobilisation aussi en Kanaky, où malheureusement l'ultime espoir des indépendantistes s'est envolé ce mardi 7 décembre. Le Conseil d'État s'étant prononcé en faveur du maintien ce dimanche 12 décembre du référendum sur l'indépendance calédonienne, après avoir été saisi en référé par 150 citoyens neufs qui en demandaient son report. Sur l'ordonnance, il est indiqué que malgré des craintes des requérants concernant la situation sanitaire, le pic de contamination de septembre a été dépassé et la situation épidémiologique s'est depuis nettement améliorée. Les questions de deuil ont aussi été mises au placard et 2000 renforts humains envoyés par la France, constitués de 1400 gendarmes, dont 15 escadrons de mobiles, une composante d'intervention spécialisée GIGN, 60 enquêteurs, environ 100 policiers et 250 militaires, en plus des forces de l'État déjà présentes sur le territoire, 600 gendarmes, 500 policiers, 1500 militaires, ainsi que 160 véhicules, 30 engins blindés de type VBRG, 2 hélicoptères Puma, un avion CASA, le porte-avions Bougainville pour remplacer le Dentrecasteau, des équipements d'information et de communication, 110 bases radio-numériques, du matériel de protection individuelle. Ça promet pour ce dimanche.
Je crois qu'ils n'écoutent pas.
Ah. Sûr, on les a perdus.
On les a perdus.
Oh.
Écoute.
T'écoutes ou quoi ?
On est là.
Viens.
Ouh. Oh, t'écoutes ou quoi ?
On est là. Viens. C'est bien.
Yes, vous êtes toujours à l'écoute des infos choisies. Avant de passer à l'agenda, petite transmission d'infos suite à la destruction du camp entre guillemets de Rome de Frévalon, eh bien par un incendie, et il y a une collecte de bouffe, de matos, donc de couverture et de nourriture au centre social de Frévalon. Et il y a également des collègues qui s'organisent en ville. Si ça vous intéresse, on nous a transmis un numéro de téléphone qu'on peut passer à l'antenne. Prenez vos stylos, c'est le 06. D'ailleurs, il est temps de prendre les stylos pour noter aussi ce que vous allez faire ce week-end. Donc prenez votre stylo 06 29 97 22 63, un numéro de téléphone que vous pouvez joindre pour être solidaire avec les personnes roms qui n'ont plus d'endroit où vivre. Et l'agenda pour ce week-end, alors votre cerveau va exploser, il y a beaucoup trop de choses, votre agenda va être beaucoup trop plein. Ce soir, vendredi 10 décembre à 19h, à la librairie Transit, une présentation de La Discrétion, le nouveau roman de Faïza Guen en sa présence, et l'autrice de Kif Kif Demain.
Ce soir aussi, de 19h à 21h, Silence, on slame. Une scène slam collective dirigée par Lisette Lombé, artiste protéiforme, afroféministe, belge et congolaise, militante pour la défense des minorités. C'est organisé par Peuple et Culture et ça se passe à la halle de Coco Velten, 16 rue Bernard Dubois, près de la Porte d'Aix à Marseille.
Soirée débat avec Nicolas Jounin, autour de son livre Le cachet de la poste, enquête sur l'organisation du travail des facteurs au local de Solidaire 13, 29 boulevard Longchamp.
Ce soir, toujours, mais cette fois-ci à 19h30, vous pouvez vous rendre à Manifesten, c'est dans le quartier de la Plaine au 59 rue Thiers, pour une cantine solidaire, ça s'appelle un manifestin, et c'est en soutien aux camarades inculpés colombiens.
Et encore ce soir à 19h30 aussi, il y a de la concurrence au cinéma, le Gyptis, il y a une projection, donc c'est à la Belle de Mer rue Loubon, projection rencontre autour de la série Girlhood de Jean-François Tatin et Flora Desprat, et c'est une série avec 8 jeunes femmes qui ont choisi le rap pour raconter leur combat, leur quotidien et leurs identités. Le film dure une heure et bien sûr il va falloir présenter un pass sanitaire pour rentrer dans un ciné.
Voilà, et après cette soirée bien chargée, vous pourrez vous lever tôt demain parce que samedi 11 décembre, donc demain à 9h, quartier solidaire, il y a un vide-cafouche de Noël en soutien au marché de la Plaine. C'est l'Assemblée de la Plaine qui vous propose de venir vider vos greniers et cafouches en soutien au retour du marché de la Plaine. L'événement est indépendant et autogéré.
Et ensuite, vous pourrez aller au local de Solidaire 13 à partir de 13h pour des ateliers et discussions sur le renseignement et la surveillance d'État avec le collectif de soutien aux inculpés du 8 décembre 2020 et des membres de la Quadrature du Net. Ça se passe au local de Solidaire.
C'est à moi.
Oui, c'est ça, c'est à toi. C'est la manif.
Toujours demain, ouais, il y a une manifestation donc des militants et militantes kurdes pour la libération d'Abdullah Öcalan. Le départ, c'est comme d'hab des réformés en haut de la Canebière à 13h demain samedi. Et c'est organisé par le Centre de la communauté démocratique kurde de Marseille, Dema Azadiye, qui veut dire l'heure de la liberté est venue.
Et un peu plus tard dans l'après-midi, à 16h, à Martigues, cette fois-ci, à la MJC de Martigues, boulevard Émile Zola, il y a un week-end de rencontres Ouvrons les frontières. C'est une rencontre avec Pia Clem, qui est capitaine de navire de secours en mer, et Claire Fiaghianelli, sauveteuse en mer. Et c'est une table ronde sur le secours en mer des exilés avec un repas vegan et un concert. C'est demain à 16h à la MJC de Martigues, boulevard Émile Zola.
Et demain soir, samedi 11 décembre toujours, donc à partir de 18h à la DAR, rue d'Aubagne, donc dans le cadre du mois contre les violences policières, un week-end d'information et de mobilisation contre les violences policières aux frontières et la collaboration répressive entre États. Donc cette soirée sera une soirée d'information sur la situation aux frontières avec des collectifs actifs à la frontière de Calais, Briançon, Turin et Vintimille. Suivi d'une soirée de soutien au collectif El Mamba avec karaoké et DJ à partir de 18h donc.
Et si après tout ça vous n'êtes toujours pas fatigué ou pas en hibernation, la semaine prochaine, mardi 14, aura lieu un vernissage donc au MUSEM, au Musée des Méditerranées, bien connu à Marseille. Mais c'est une expo dont on avait envie de vous parler aux infos puisqu'elle va concerner l'épidémie de VIH-Sida à laquelle notre ville a payé un lourd tribut. L'expo, elle s'appelle VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, pardon. Elle va durer jusqu'en mai. Mais mardi, ce sera une des rares occasions pour vous de la voir gratos, puisque c'est le vernissage. Cette exposition a été préparée depuis de longs mois et de nombreuses personnes concernées par cette histoire et par la lutte contre le VIH ont mis leurs archives à disposition. Elle va retracer l'histoire sociale et politique de l'épidémie. Ça peut être pas mal si vous y allez. On est pressé que vous nous racontiez. Et ils vont demander le pass sanitaire aussi, bien sûr, puisqu'il s'agit du MUCEM.
Et enfin, jeudi 16 décembre à 20h, à la halle au Coco Velten, il y a une projection débat autour des traditions indiennes et marronnage à la Nouvelle-Orléans. Organisée par Peuple et Culture, la projection du film Don Claiborne de Moira Tierney, une cinéaste irlandaise, suivie d'un débat avec la réalisatrice
Moira Tierney.
Moira Tierney.
Et ben voilà, on arrive à la fin de cet agenda et donc du coup de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On fait une grosse dédicace à notre référent de la semaine qui se reconnaîtra et qui a travaillé
ouais,
à distance.
Prends soin de toi.
Voilà, et ses compères d'ailleurs de son d'édito. Hein.
Gros bisous à toute la team des infos, où que vous soyez.
Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 12h30, comme toutes les semaines, sur Galère.
Et j'espère que vous avez décidé où vous alliez ce soir avec tout cet agenda là.
Nous, on n'a pas encore décidé, mais on s'y retrouvera probablement.
On va se répartir.
À la semaine prochaine, salut!
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.